Salut à tous, ici Zeni pour le 4ème épisode du Poké Freak Show. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, nous ne parlerons pas d'un, mais de deux Pokémon. Bon, c'est quelque chose de pas si exceptionnel que ça, et ça va très souvent arriver, puisque, comme vous le savez sans doute, ces créatures ont une particularité, elles peuvent évoluer. Et par là, je veux dire qu'il va souvent nous arriver de ne pas parler d'un seul Pokémon, mais de toute une lignée évolutive. Très souvent, l'évolution d'un Pokémon consiste à prendre une petite créature, toute mignonne et toute petite, avec des caractéristiques, et d'avoir ses versions de lui plus grandes, plus grosses et plus menaçantes. Mais parfois, lors de son évolution, il peut aussi carrément changer de forme, voire même changer de type, ou changer de style de Pokémon. C'est principalement le cas de la plupart des Pokémon qui peuvent évoluer en plusieurs choses en fonction de certaines conditions, mais ce cas-là, nous l'explorerons plus en détail dans 15 jours. Vous avez vu comme je suis bien organisé? Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur une lignée évolutive issue de la 4ème génération, celle de Pokémon Diamant et Perle. Mais cette lignée a levé tout de même pas mal d'interrogations. D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils comme ça? Et surtout, plus important, qu'est-ce que c'est? Bon, ça change pas des 3 premiers épisodes du podcast. Mais ici, nous allons ajouter une autre question. Comment l'un peut-il évoluer en l'autre? L'origine d'un Pokémon peut venir de sources très variées. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, ils peuvent venir d'un cryptide, d'une créature mythologique, d'un condensé de plusieurs légendes folkloriques, et même de personnes issues d'une légende urbaine. Et dans d'autres cas, il peut aussi être tiré d'une simple histoire. Non pas d'un personnage ou d'une créature d'une histoire, mais entièrement d'une histoire. Par exemple, parmi les Pokémon dont je n'ai pas prévu de faire d'épisode tout de suite parce qu'ils ont l'air d'être plutôt bien appréciés, donc je veux peu vous spoiler, on peut citer l'existence même de Magikarp qui vient d'une légende d'origine chinoise. Celle-ci raconte que lorsqu'une carpe Koi qui symbolise dans l'Empire du Milieu la persévérance remonte un fleuve, elle s'envolerait vers le ciel pour devenir un dragon, ce qui donne Léviator. Cette légende est d'ailleurs littéralement retracée sur Pokémon Snap où il faut envoyer un Magikarp dans une cascade pour avoir un Léviator. Nos deux Pokémon du jour sont également tirés de ce genre de légende, mais dans leur cas, c'est plus subtil. Dans les épisodes de Insolordo et de Trousselin, j'avais sous-entendu que leur existence pouvait prouver que les Pokémon existaient, ou qu'il y avait des créatures non Pokémon dans le Pokéworld. Avec cet épisode, nous allons même aller plus loin. Leur existence en tant que Pokémon pourrait expliquer une légende. Inutile de vous faire patienter plus longtemps, aujourd'hui nous allons parler des Pokémon numéro 436 et 437, Archéomyr et Archéodon. Tous deux de type Psy et Acier, double type qu'ils partagent avec les deux légendaires Jirachi et Solgaleo, mais aussi avec la famille de Metalos, Archéomyr et Archéodon sont, si vous l'avez bien compris, les deux membres d'une même lignée évolutive. Plus précisément, Archéomyr évolue en Archéodon au niveau 33. Commençons par parler d'Archéomyr. Archéomyr est un petit Pokémon d'un demi-mètre pour 60 kg. Plutôt lourd, mais d'un autre côté, c'est un Pokémon acier qu'on retrouve principalement dans les grottes de la région de Shinnoh, celle qui s'inspire de Hokkaido, l'île au nord du Japon. Il s'agit d'un Pokémon bleu totalement rond et plat, un peu comme une plaque décorative. Donc au niveau du Pokédex, il y a seulement deux descriptions qui peuvent nous intéresser, celle de diamant et celle de platine. L'un nous dit qu'il rappelle des objets trouvés dans les sépultures anciens, et l'autre affirme que certains scientifiques soutiennent que le Pokémon était jadis aussi réfléchissant qu'un miroir. Vu les descriptions et le « archéo » dans son nom, on peut se douter qu'il fait référence à des vieux trucs retrouvés dans les sites archéologiques. Mais quoi donc? Une sorte de plaque décorative, un gong, une assiette, un dessous de plat? Ou comme l'affirme le Pokédex, une sorte de miroir? C'est complexe tout ça. Voyons voir sans plus tarder son évolution. Du haut de son 1m30 pour 187 kg, belle bête, Archéodon est encore plus chelou. De par sa forme cylindrique et le dong dans son nom, on peut soupçonner très vite qu'il s'agit d'une cloche. Mais il possède des ornements bizarres et ses jougs semblent lui servir de bras. Et puis en vrai, on dit que c'est une cloche, mais franchement, j'ai jamais vu une cloche comme ça, moi, pauvre occidental naïf que je suis. Par contre, il y a un truc cool avec Archéodon. C'est qu'on a enfin dans le Poké Freak Show un Pokémon qui a une histoire intéressante en stratégie. Archéodon fait partie de ces Pokémon qui ont vite été rattrapés par les événements en compétition Pokémon. À la sortie de Pokémon Diamant et Perle, il faisait direct partie intégrante du tiers Overuse, qui est tout simplement le meilleur tiers du jeu juste derrière les Pokémon interdits. Cette puissance s'explique par sa bonne défense, un Mopool très riche contenant Piège de Roc, l'une des attaques phares de cette génération, et d'un double type Acier Psy qui à l'époque lui permettait d'être sensible qu'au sol et au feu. Et même, il n'était sensible qu'à un seul des deux types puisqu'il peut accéder à deux talents, Ignifurge qui réduit les attaques feu de moitié, et Lévitation qui le protège des attaques sol. Donc au final, à la 4G, on avait un tank de choix. Une bonne défense, de bonnes attaques, et surtout un double type qui lui permettait de résister à 9 types sur 17. Malgré une vitesse ridicule, bien que palier avec l'attaque distorsion, il était beaucoup apprécié à l'époque. Mais les choses ont commencé à se gâter par la suite pour lui. D'abord en 5ème génération où il a été relégué au tiers underused à cause de noisiers qui faisaient exactement comme lui, mais en mieux. Et puis ça a été complètement la fin à partir de X et Y, où il se retrouva perdu dans le tiers rarely used où il y est encore aujourd'hui. À cause d'une seule chose, à partir de cette génération, l'acier devient sensible aux spectres et aux ténèbres, soit les deux fléaux des types Psy. Cet avantage le protégeait jusque-là, mais à partir de cette génération, il n'avait plus rien pour se protéger. Donc, dans le jeu, comme il semblerait, comme dans son background, Archéodonk est juste devenu le vestige d'un passé glorieux. Alors, il faut savoir que ce cas n'est pas si isolé que ça, puisque beaucoup d'autres Pokémon de ce genre se sont vite vus dépassés par les événements, Ronflex étant l'exemple le plus répandu. Ils sont surtout là pour prouver que plus les générations avancent, et plus les Pokémon sont puissants. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose. C'est juste dommage que ces anciens Pokémon-là n'aient pas été adaptés à ces nouveaux événements. Mais bien que je trouve ça pas mal intéressant, fermons cette parenthèse stratégique, voulez-vous ? Au niveau du Pokédex d'Archéodonk, on nous parle tout de même d'un concept dont on n'aurait pas douté de sa part. Alors évidemment déjà, Diamant nous reparle d'archéologie avec la découverte d'un de ses Pokémon sur un site de fouilles après 2000 ans de sommeil a fait sensation. Et Perle nous dit qu'il peut créer des nuages pluvieux. Jadis, il aurait été vénéré comme le patron des bonnes moissons. X le confirme avec « Il a longtemps été célébré pour avoir apporté la pluie ». Et Platine va plus loin avec « Il apporte la pluie en créant un portail vers une autre dimension ». C'est intéressant tout ça. Donc Archéodonk apporte la pluie et aide pour la moisson. Et effectivement, il apprend bien Dense Pluie qui apporte la pluie sur le terrain. C'est même le seul Pokémon possédant cette attaque qui ne possède rien d'autre pouvant profiter de cette météo. Alors est-ce là un indice décisif pour trouver ses origines ? Bref, nous avons donc là des Pokémon au design bien chelou de type acier et psy, mais on se doute bien qu'ils font référence à des objets anciens de notre monde. Mais quoi donc ? Quel objet et de quel pays ? Et une fois de plus, la réponse à ce mystère est envoyée directement par l'étymologie de ces Pokémon. Commençons par Archéomyr, bronzor en anglais. Archéo vient évidemment du domaine de l'archéologie et de l'étude des vestiges du passé, mais le myrrhe, ça ne ressemble pas du tout à ornement ou gong, donc ça doit être autre chose. Eh bien oui, c'est le myrrhe de miroir. Archéodonk est un miroir, et plus précisément un miroir de bronze, comme le souligne son nom anglais bronzor, qui veut dire bronze et miroir, ainsi que l'entrée du Pokédex que nous avions vu plus tôt. En gros, les miroirs de bronze sont les prédécesseurs des miroirs de verre et sont des artefacts qu'on a découverts principalement en Chine, mais aussi partout ailleurs, de l'Italie au Japon, en passant même par l'Égypte. Et les plus anciens datent de l'an 3000 avant notre ère. Même si aujourd'hui, avec le temps, ce n'est plus très réfléchissant, c'était effectivement des miroirs. Si vous voulez qu'on soit plus précis, notons que Archéomyr est rond, symétrique, possédant des ornements à son bord et un gros bouton au centre. On peut donc en déduire que notre ami est principalement inspiré d'un miroir de bronze d'Extrême-Orient, Chine et Japon donc. Le nez d'Archéomyr servant d'attache à ces miroirs. Et Archéodonk donc, cloche ou pas cloche ? Eh bien, oui, cloche. Plus précisément, comme le précise son nom japonais Dotakun, son inspiration provient des Dotaku, des cloches issues des temps anciens au Japon. Et qui plus est, il s'agit de cloches en bronze. Beaucoup de choses sont à noter sur les Dotaku. Déjà, leur forme est assez étrange. C'est bien plus long et bien plus maigre qu'une cloche qu'on a dans notre bon terre-terre occidental. Et il ne possède pas de battant, donc il fallait le frapper soi-même. Il pouvait posséder des motifs dessus, ce qui expliquerait sans doute le visage d'Archéodonk, mais représenter des animaux, des végétations, mais aussi et surtout des insectes. Plus particulièrement des insectes qui mangeaient ceux qui détruisaient les rizières, comme les libellules, les araignées et les mantes religieuses. Et ce dessin-là est sans doute un indice sur l'utilisation de ces cloches. Car contrairement au taiko par exemple, les dotaku n'étaient pas en soi des instruments de musique, mais plutôt des instruments de rituel. Et plus précisément, ils pouvaient servir pour invoquer les bonnes récoltes. En bref, selon les historiens, les japonais utilisaient des dotaku pour appeler la pluie ou au moins soigner les récoltes, ce qui les rend complètement cohérents avec les entrées du Pokédex citées plus haut et son attaque Dense Pluie. Archéodonk servait donc aussi aux anciens du monde de Pokémon à invoquer la pluie en fait. Un autre lien avec la moisson viendrait de son visage. En effet, alors que perso j'y vois plutôt une allusion au fait qu'on pouvait voir des mantes religieuses sur les Dotaku, certains y voient une représentation de Tlaloc, un dieu aztèque qui lui aussi invoquait la pluie. Alors franchement, je vois pas trop comment ils peuvent le retrouver là-dedans, et surtout, qu'est-ce que la culture méso-américaine vient foutre ici en fait ? Mais bon, c'est une théorie comme les autres, donc autant la signaler. Cela dit, à ce stade-là, j'ai tout de même une question. Est-ce que Archéodonk, et même les Dotaku en règle générale, ont un lien avec Demeteros, Pokémon de la 5ème génération qui, selon les entrées du Pokédex, a aussi le pouvoir d'améliorer les moissons ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ou font juste doublon ? Alors en fait, pas vraiment. Nous parlerons de lui plus en détail lorsque nous ferons un épisode sur le trio des génies, mais Demeteru s'inspire de Inari, un kami de la religion shintoïste. Le shintoïsme est né au courant du 8e siècle, selon les écrits retrouvés. Les Dotaku, eux, sont plus anciens. Ils sont datés entre -800 et le 3e siècle de notre ère, soit durant une période de l'histoire du Japon qu'on appelle la période Yayoi, donc Archéodonc est bien plus ancien. Mais on peut tout de même supposer que Demeteru et les trois autres génies n'avaient juste pas encore été découvertes à ce moment-là, c'est pour ça qu'on donnait autant d'importance à Archéodonc. Donc voilà de quoi sont inspirés Archéomir et Archéodonc, d'un miroir et d'une cloche. Littéralement. Bien évidemment, on pourrait gueuler sur le fait que blablabla, c'est des Pokémon objets, c'est honteux, fourchette, blablabla, etc., etc. Mais on en a déjà parlé dans l'épisode de Trousselin, donc si c'est pas déjà fait, allez écouter cet épisode, puis revenez. Bien, maintenant que nous sommes entre personnes sérieuses, nous pouvons continuer. Donc nous avons déjà levé la plupart des interrogations sur ces deux Pokémon. Mais nous n'avons pas encore parlé de la principale. Nous avons donc un miroir et une cloche. Ok, très bien, mais j'ai juste une question. Comment un miroir peut se transformer en cloche? C'est improbable, non? Ils n'ont aucun lien, en fait. Aucun lien? Vraiment? Alors déjà, comme je l'ai dit, les deux sont des objets de bronze. Et qui plus est, des objets archéologiques de bronze. Donc on retrouve tout de même une certaine thématique dedans. Ces deux objets issus de l'âge de bronze japonais, donc pas si éloignés que ça. Le miroir de bronze orientaux et les Dotaku ont tout de même une origine commune, en fait. Qui plus est, si les Dotaku ont principalement été produits durant la période Yayoi, donc au début de notre ère commune, les premiers miroirs de bronze japonais ont aussi été datés durant cette période. Donc ces deux objets ont plus qu'une racine commune en fait, et sont issus de la même culture durant la même période. Donc leur lien dans l'univers est pas si innocent que ça. Pas convaincu ? Ouais, moi non plus en fait. Ok, ce que je dis est vrai, mais les miroirs et les Dotaku n'étaient pas les seuls objets en bronze à cette époque. Il y avait des vases aussi, et des cercueils. Pourquoi Archéomir n'évoluait pas en cercueil par exemple? Pourquoi ces deux objets en particulier? Hasard? Ou il y a vraiment un lien? Eh bien, vous vous en doutez, mais si je parle de cette particularité, eh bien c'est qu'il y a effectivement un lien. Un lien même très fort entre les miroirs de bronze et les Dotaku, à tel point que les connaisseurs n'auraient pas pensé à les séparer. Et pourtant ce lien n'a rien à voir avec une quelconque source archéologique, donc nous allons arrêter nos fouilles. Non, ce lien nous provient des Kwaidan. Donc je vais vous dire tout de suite quel est ce lien. Mais avant toute chose, question évidente, qu'est-ce qu'un Kwaidan? Alors grosso modo, un Kwaidan est une histoire d'horreur à la sauce japonaise. Kai voulant dire mystérieux, étrange, et Dan signifiant récit. Plus précisément, c'est des histoires liées à des fantômes japonais, ou yokai, chose dont l'archipel est assez friand. Il suffit de s'intéresser un minimum à ce pays pour savoir que les fantômes font partie intégrante de leur culture. Une personne qui s'intéresse encore plus aux fantômes, et plus particulièrement aux histoires de fantômes japonais, c'est Lafcadio Hearn. Parmi les recueils de nouvelles qu'il a écrits pour introduire le monde oriental aux États-Unis, il y a celui qui nous intéresse et qui s'appelle sobrement Kwaidan. Ce livre recueille donc 16 nouvelles issues de vieux textes traduits et de contes oraux, accompagnées d'une étude sur les superstitions d'Extrême-Orient. Mais plus qu'un livre d'études de choses étranges, c'était avant tout un beau recueil de vieilles histoires de fantômes japonaises, mais aussi chinoises. Et parmi les 16 histoires recueillies, il y en a une, vous vous en doutez, qui va tout particulièrement nous intéresser. Son nom ? Mugen Kane, ou en français, à propos d'un miroir et d'une cloche. Il y a plusieurs siècles dans la province de Totumi, c'est pas loin de Tokyo, les prêtres voulurent obtenir une très grande cloche en bronze à suspendre dans leur temple. Mais pour la construire, ils demandèrent aux habitants de faire don de leur miroir de bronze afin qu'on les fondît pour la fabrication de cette cloche. Tous les habitants exécutèrent alors la requête, dont une femme, épouse d'un fermier de la région, qui n'est pas nommée dans le texte, donc on va l'appeler sobrement Gisèle pour se faciliter la vie. Mais à peine Gisèle donna son miroir qu'elle regretta amèrement son geste. En effet, ce miroir était un cadeau de famille, et elle repensait à tous ces moments passés avec ce bel artefact. Chaque fois que Gisèle se rendit au temple, elle vit son miroir posé sur le pavé de la cour derrière une grille, parmi des centaines d'autres miroirs entassés les uns sur les autres. Elle pensa souvent à dérober son objet d'une manière ou d'une autre, mais préféra garder son chagrin pour elle, malgré tout. Cependant, lorsque les miroirs furent envoyés à la fonderie, on découvrit qu'il y avait parmi eux un qui refusait de fondre. Les prêtres comprirent alors de quoi il s'agissait. La personne qui avait offert ce miroir avait ensuite regretté son offrande, donc son âme égoïste, oui le texte utilise bien égoïste, était encore fortement attachée à cet objet et le rendait dur et glacé même au milieu de cette fournaise. Lorsque la nouvelle fut répandue, on devina très vite à qui pouvait appartenir ce miroir qui refusait de fondre. Et quand elle se retrouva au cœur du scandale, Gisèle eut forcément très honte de ce qu'elle avait causé malgré elle. Elle ne put supporter son chagrin, et quelques temps après, Gisèle se noya en laissant une lettre d'adieu derrière elle. Lorsque je serai morte, il sera facile de fondre le miroir. Mais mon âme donnera une immense fortune à celui ou à celle qui parviendra à briser cette cloche à force de la sonner. Effectivement, peu après le suicide, le miroir put enfin être fondu et la cloche prit enfin forme. Mais tout le monde se souvint de la promesse de Gisèle, et une fois qu'elle fut suspendue dans la cour du temple, nombreux furent celles et ceux qui allèrent pour tenter de briser la cloche et obtenir la fortune promise, tous persuadés que ce message ne pouvait qu'être vrai. Mais sans grand succès, ils frappèrent, utilisant tous les moyens possibles, mais la cloche restait parfaitement intacte. Jours et nuits, on entendait la cloche sonner, les habitants continuaient d'insister malgré les protestations des prêtres. À la fin, ces derniers en eurent tellement marre qu'ils se débarrassèrent de cette cloche qui causait tout ce tintamarre. La cloche se retrouva alors jetée au fin fond d'un marais, engloutie par la vase et disparut à jamais. Et Gisèle, grâce à une simple promesse, a pu se venger de cette cloche qui l'avait autant tourmentée. J'aime bien cette histoire, parce que, à part le simple fait que le miroir ne fondait pas, ça n'est pas en soi une histoire de fantôme, mais une histoire plutôt de ruse, puisqu'on ne saura jamais si ce que cette femme avait écrit se vérifiait vraiment. Cela lui donne un aspect très réaliste, et d'aucuns dira que c'était même un troll de qualité. Très souvent, les légendes japonaises mêlent l'étrange et le tragique. Nous ne sommes pas toujours devant une simple histoire avec des faits étranges, mais aussi devant un drame en fait. Deux styles qui s'entremêlent pour donner une histoire réaliste, mais avec tout de même un détail surréaliste. Mugen Kané en est un parfait exemple, mais d'autres histoires de recueil de Hearn l'illustrent parfaitement, et je vous invite à le consulter. Mais nous ne sommes pas là pour faire une étude de texte, bien que ce serait plutôt intéressant. Sachez tout de même que, même si en Occident nous avons obtenu cette histoire grâce à Hearn, cette légende est très réputée au Japon, à tel point que pendant des siècles, de nombreux Japonais sont partis à la recherche de cette cloche, appelée Mugen Kané. Personne ne sait où elle se trouve, mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle cache des pouvoirs mystiques, au point qu'elle peut donner gloire et fortune à la personne qui la brisera. Beaucoup de Totaku ont été en quelque sorte attaqués par les Japonais dans les quatre coins de l'archipel, persuadés que c'était la bonne cloche. Et comme dans la légende, toutes ces cloches ont été enfouies à l'extérieur des villes, pour au moins éloigner ce vacarme. Et c'est pourquoi de nombreux Dotaku ont été découverts là-bas, en partie brûlés. Mais revenons à nos Pokémon. Donc cette légende explique effectivement beaucoup de choses. Déjà, ça explique pourquoi Archéomir évolue en Archéodong, donc pourquoi un miroir évolue en cloche, et on a aussi la raison pour laquelle il possède le talent Inifuge, qui le protège des attaques feu. Et enfin, pourquoi l'entrée du Pokédex de Diamant nous dit que sa découverte a fait sensation. Car les archéologues de l'univers de Pokémon étaient persuadés d'avoir retrouvé le fameux Mugen Kané qui promettait la fortune. Mais surtout, un détail de cette légende explique son double type. En effet, la légende fait mention d'un dicton célèbre au Japon, le miroir est l'âme d'une femme comme le sabre est l'âme d'un guerrier. Bon, nous passons sur l'aspect misogyne de cette citation, c'est le 3ème siècle. Hein. Mais bon, cette citation pourrait justifier le type Psy de Archéomir, ainsi que le type Spectre de Monorpal, Pokémon de la 6ème génération possédant l'aspect d'un sabre. Et par extension, et en parallèle avec cette légende, ça explique aussi pourquoi une cloche japonaise est aussi de type Psy. En bref, toutes les cloches japonaises sont vivantes finalement, et voire même des Pokémon. La plupart étaient des miroirs de bronze, donc des Archéomir, possédés par une femme, et lui étaient fidèles. Seulement, la légende de Mugen Kané les a enfouis malgré eux au fin fond des marais, et c'est pour ça qu'ils ont été perdus. Mais ils ont été retrouvés 2000 ans plus tard. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que le Mugen Kané est aussi un Archéodong? Un seul Archéodong parmi tant d'autres qui peut offrir la fortune à son dresseur, voire à ses adversaires vu le contexte? Est-ce que par exemple, ce serait sa forme chromatique qui effectivement est plus dorée que sa forme normale? Là par contre, on ne peut qu'aller dans les spéculations. En effet, le monde de Pokémon est riche, mais nulle part on ne fait mention d'un Archéodong perdu d'une vieille légende. Ce qui est dommage, ça ferait un chouette épisode dans l'animé. Mais qui sait? Peut-être que ce Mugen Kané existe et attend qu'il se fasse capturer. Game Freak pourrait bien nous surprendre en relançant cette légende. N'oubliez pas que la 4ème génération vient tout juste de faire son apparition dans Pokémon Go. Donc, pourquoi pas? Bref, si on récapitule, Archéomir et Archéodong étaient de grands combattants en stratégie, pouvaient amener la moisson avant que les Kami viennent prendre leur travail, et on avait une chance d'obtenir la grande fortune grâce à eux il y a des siècles. D'aucuns dira que ce sont des Pokémon aujourd'hui obsolètes. Personnellement, j'y vois plutôt des Pokémon avec un passé glorieux, et qui ne sont finalement pas encore morts. Et finalement, c'est pour ça qu'on les aime, non ? Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Concrètement, ce n'était pas facile, mais nous avons résolu toutes les énigmes que cachaient Archéomyr et Archéodong, ou du moins on a fait plusieurs spéculations. Nous savons à quoi ils font référence, pourquoi l'un évolue en l'autre, d'où viennent ces entrées du Pokédex, nous avons compris pourquoi ils possédaient certains talents et certaines attaques, et nous avons même imaginé quel pourrait être l'avenir d'Archéodong dans la licence de Pokémon. Bon, un doute persiste sur la design de Archéodong, mais globalement, ce fut un succès complet, non ? Non ? Et non, il manque quelque chose. Archéomyr et Archéodong possèdent un petit détail dans leur design que je n'ai, à l'heure actuelle, toujours pas réussi à expliquer, et là, je vais faire appel à vous. Car si vous regardez bien le design de ces deux Pokémon, et particulièrement leur représentation de dos, vous verrez qu'ils possèdent tous les deux l'empreinte d'une plante gravée sur le dos. Et une empreinte bien mise en évidence. Une tige de feuilles, pour être exact. 5 feuilles sur une tige. D'ailleurs, le Pokédex de HeartGold de Archéomyr en fait mention, car il prétend que sa source de pouvoir viendrait de ce symbole. Et pour être honnête, je n'ai absolument pas trouvé d'où ça pouvait venir. Rien du tout n'explique avec certitude pourquoi ces deux Pokémon ont un tel détail autant mis en valeur. Et surtout, il semblerait que dans les premières démos du jeu, ils ne possédaient pas ce symbole. Donc pourquoi les créateurs de la 4ème génération ont choisi de lui rajouter ça à la dernière minute ? Pour le moment, j'ai quand même deux théories que je vais vous partager tout de suite. La première vient du fameux Quaidan que je vous ai raconté. En effet, il est dit que le miroir maudit par Giselle possédait sur son dos un ornement qu'on appelait le Cho-Chiku-Bai, à savoir des représentations d'un pin, d'un bambou et d'une fleur de prunier, et qu'il forme un emblème de bonheur. Vu qu'il est bien précisé que c'est gravé sur son dos, ça pourrait être bien ça, ou en tout cas, en partie. Non, parce que ça pourrait ressembler effectivement à une feuille et non pas une fleur de prunier, mais ça n'a rien à voir avec un pin ou un bambou. Ma seconde théorie, plus technique, est qu'il s'agit plutôt d'une feuille de saule. D'un point de vue caractéristique, ça s'assimile très bien, et surtout en Chine, le saule est le symbole de l'immortalité. Ça se colle bien du coup donc, ça expliquerait comment les archéodonques ont pu tenir enfouis sous terre pendant 2000 ans. Ça pourrait aussi être une fusion de ces deux théories, l'un justifiant la forme de ce symbole et l'autre le fond. Ou alors ça pourrait être autre chose, par exemple ça pourrait juste montrer que Archéodong peut créer les moissons. En tout cas, personnellement je suis pas du tout convaincu par ce que je viens de vous dire. Et c'est pour ça que je vous propose de me venir en aide. Du coup, ce que je vous propose c'est de m'envoyer par mail, ou d'une autre manière tant que je vois votre réponse, vos théories à vous sur la présence de ces feuilles au dos de ces deux Pokémon. Franchement, elle signifie forcément quelque chose, c'est pas possible que Game Freak ait mis un tel détail au hasard. Et si on s'y met tous ensemble, peut-être que nous trouverons un secret qui rend l'existence de ces deux Pokémon encore plus exceptionnelle. Dans tous les cas, dans le prochain épisode, peut-être que je vous révélerai le secret de Archéodong que quelqu'un m'aurait fait découvrir, mais nous parlerons aussi de pas un, ni deux, mais de trois Pokémon. Tous trois venant de la même lignée évolutive, mais qui sont au mieux oubliés, au pire vus comme des machins bien chelous. Bref, ça change rien du reste de l'émission en fait. Merci encore à Radiokawa de m'avoir permis de donner une tribune pour parler tranquillement de Pokémon, et on se retrouve donc dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Ciao! Et pour conclure cet épisode, je vous propose une courte promo pour une autre émission de Radiokawa. Et il va s'agir d'une émission que j'aime particulièrement, Ludographie Comparée. Ludographie Comparée, c'est un podcast au concept un peu perché. À chaque épisode, un doctorant en linguistique décortique un élément au sein d'un jeu vidéo afin d'en expliquer la présence dans ledit jeu et son importance pour le média tout entier. Le doctorant en linguistique, c'est Mathieu Gou. Et les précédents épisodes de l'émission ont notamment traité de la notion de score dans le premier Megaman, l'esprit de la poursuite dans Super Mario Odyssey ou encore le rôle de la cigarette dans Metal Gear Solid. Ludographie Comparée, c'est environ 30 minutes chaque mois sur Radio Kawa.